Chapitre 10. Le soir, Catherine alla au spectacle avec Mistress Allen. À peine était-elle placée que Mistress Thorpe vint avec sa famille et M. Morland se réunir à elle.
« Oh, comment, ma chère Catherine !» dit Isabelle en entrant dans la loge. « Vous êtes ici la première ? Charmante fille !»
Elle s'assit à ses côtés, puis s'adressant à James, qui s'était aussi placé près de sa sœur.
« Je vous préviens, monsieur Morland, lui dit-elle, que je ne vous adresserai pas un mot de la soirée. Arrangez-vous là-dessus. »
C'était effectivement pour elle une belle occasion d'entretenir son amie d'une partie des 100 000 choses qu'elle lui avait annoncées à avoir à lui dire sur tout ce qui s'était passé depuis un siècle qu'elle n'avait pu causer en particulier.
« Comment vous êtes-vous portée, ma chère Catherine ? Reprit-elle, pendant l'éternité que nous n'avons pu être ensemble. Mais ai-je besoin de vous le demander, en voyant l'éclat brillant de vos beaux yeux ? En vérité, je ne vous ai jamais vu coiffée avec autant de goût. C'est une perfidie. Quel homme pourra vous résister ? Mon frère, je vous assure, est déjà vaincu par vos charmes. Quant à monsieur Tilney, mais c'est encore un secret. Malgré toute votre modestie, vous ne pouvez plus douter maintenant de ses sentiments. Son retour à Bath ne les fait que trop paraître. Je donnerai tout au monde pour le voir. J'en ai une impatience inexprimable. Ma mère dit que c'est le plus aimable jeune homme que l'on puisse trouver. Elle l'a vu ce matin, vous savez. Montrez-le-moi, je vous en prie. Est-il maintenant dans la salle? Pour Dieu, regardez bien! Je vous assure que je n'aurai pas un moment de tranquillité que je ne l'ai vu.
Je ne crois pas qu'il soit ici, dit Catherine. Je ne le vois nulle part.
C'est affreux! Je ne le rencontrerai donc jamais. Aimez-vous ma robe, ma chère? La forme des manches est entièrement de mon invention. Croiriez-vous que je suis extrêmement fatiguée de Bath? J'en parlais ce matin avec votre frère. Nous nous accordions à dire qu'il était agréable d'y passer quelques semaines, mais que pour des millions, nous ne consentirions pas à y fixer notre résidence. Ce n'est pas en cela seul que nos goûts se rapportent. Nous préférons aussi le séjour à la campagne à celui de la ville. Enfin, pendant toutes nos conversations, il a régné une telle conformité dans nos opinions que c'en était presque ridicule. Pour rien au monde, je n'aurais voulu que vous y fussiez présente. Vous êtes maligne, vous n'auriez pas manqué de faire quelques méchantes remarques.
Pourquoi cela? Je vous assure que je n'en aurais fait aucune.
Oh, certainement, vous en auriez fait. Je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Vous n'auriez pas manqué de dire que nous étions nés l'un pour l'autre, ou de faire quelque autre plaisanterie pareille, qui m'aurait fort embarrassée et m'aurait fait monter le rouge au visage. Je vous le répète, pour rien au monde, je n'aurais voulu que vous eussiez été là.
En vérité, vous vous trompez. Non seulement je n'aurais fait, ni sur ce sujet, ni sur tout autre, aucune remarque inconvenante, mais la pensée ne m'en serait pas même venue. Isabelle sourit de manière à faire entendre qu'elle n'en croyait rien, et s'entretint avec James tout le reste de la soirée. Le désir que Catherine avait de rencontrer Miss Tilney s'accrut encore le lendemain et lui fit prendre la résolution de retourner le jour même à la Pump Room. La crainte que quelque nouvelle proposition ne vînt se mettre obstacle à ses projets la tourmenta jusqu'au moment de la sortie. Mais elle fut assez heureuse pour ne pas être contrariée et retardée par des visites importunes. Elle se rendit donc à la Pump Room avec M. et Mistress Allen. Le premier, après avoir bu son verre d'eau, se réunit à quelques hommes pour parler des événements politiques du jour et comparer la manière différente dont diverses feuilles rendent compte du même fait. Mistress Allen et Catherine se promenèrent ensemble en examinant chaque nouveau visage, chaque nouveau chapeau. Un quart d'heure plus tard, Mistress Thorpe arriva avec sa famille et M. Morland. Catherine, suivant sa coutume, se réunit à Isabelle, James resta avec elle,
et, se séparant insensiblement de la compagnie, ils se promenèrent tous trois ensemble. Catherine ne tarda pas à sentir tout ce que cette société avait de désagréable pour elle, puisqu'elle s'y trouvait comme entièrement isolée. Isabelle et James ne s'occupaient que de causer entre eux. Ils élevaient quelques discussions sentimentales qu'ils soutenaient en se parlant à voix basse et en laissant échapper de temps à autre quelques éclats de rire. S'ils adressaient la parole à Catherine, ce que toutefois ils ne faisaient que très rarement, c'était pour lui demander de décider sur la question qu'ils agitaient et sur laquelle elle pouvait d'autant moins donner son avis qu'elle n'en avait pas entendu un mot. Fatiguée du rôle qu'elle jouait, elle chercha et parvint à se séparer d'Isabelle. Elle ne fut pas longtemps sans apercevoir Miss Tilney qui arrivait avec Mistress Hugues. Le plaisir la ranima et la conduisit à la rencontre de celle qu'elle désirait si ardemment trouver. Elle en fut accueillie avec beaucoup de politesse et ses avances furent reçues avec des marques d'amitié. Elles se promenèrent ensemble tout le temps que les deux sociétés restèrent dans la Pump Room. Elles firent des observations, des réflexions qui, sans doute, avaient été faites auparavant plus de 1000 fois à chaque saison et dans le même lieu, mais qui avaient ici le mérite assez rare d'être exprimées avec simplicité, sans aucune recherche, et avec le caractère de l'exacte vérité. « Comme votre frère danse bien !» fut une exclamation ingénue qui échappa à Catherine à la suite de cette conversation. Cette exclamation étonna et fit sourire Miss Tilney. « Henri ? » dit-elle en riant. « Oui, il danse assez bien. » « Il ne peut avoir dernièrement pensé que du mal de moi. Il m'a invité à danser, je n'ai pu accepter son offre et je lui ai donné pour motif que j'avais un engagement. Il aura remarqué que je suis restée assise. Cependant, dans la réalité, j'étais engagée pour toute la soirée avec M. Thorpe. » Miss Tilney inclina la tête et ne répondit rien. « Vous ne pouvez imaginer, reprit Catherine, quelle a été ma surprise en le revoyant. Je le croyais parti. » Quand Henri a eu le plaisir de vous voir pour la première fois, il n'était à Bath que pour 2 jours et il y était venu y choisir notre logement. C'est ce qui ne m'est pas venu en idée. Ne le rencontrant nulle part, il était naturel de penser qu'il était parti. La jeune demoiselle avec laquelle il a dansé mardi ne se nomme-t-elle pas Miss Smith ? Oui, c'est une connaissance de Mistress Hugues. Elle paraissait bien contente de danser. Trouvez-vous qu'elle soit jolie ? Non, pas absolument. Votre frère ne vient donc jamais à la Pump Room ? Pardonnez-moi, il y vient quelquefois. Ce matin, il a monté à cheval avec mon père. Dans ce moment, Mistress Hugues s'approcha et demanda à Miss Tilney si elle était prête à retourner. « J'espère, dit Catherine à celle-ci, que j'aurai bientôt le plaisir de vous revoir. Irez-vous demain au bal ?»« Cela serait possible. Oui, je pense que nous irons. »« J'en suis bien aise, car nous irons aussi. » Après une réponse polie de Miss Tilney, on se sépara. Miss Tilney recueillit dans cet entretien quelques notions sur les sentiments de sa nouvelle amie, qui, de son côté, était bien éloignée de soupçonner qu'elle eût pu dire quelque chose qui fût capable de la trahir. Catherine rentra donc à la maison, très heureuse de ce que la matinée avait répondu à son désir. La soirée du jour suivant fut alors le nouveau sujet qui occupa toutes ses pensées. La robe qu'elle devait mettre, la coiffure qu'elle devait choisir, devinrent l'objet important de ses réflexions. « Je ne chercherai point à la justifier, parce que la parure est toujours une occupation frivole et que le soin excessif que l'on prend nuit pour l'ordinaire aux avantages que l'on a reçus de la nature. » C'est ce que Catherine ne pouvait ignorer. Sa grand-tante lui avait fait une lecture sur ce sujet aux dernières fêtes de Noël. Elle n'en veilla pas moins assez longtemps la nuit du mercredi au jeudi pour avoir le loisir de délibérer si elle mettrait sa robe de mousseline brodée à la main ou celle qui était brodée au tambour. Si ce n'eût été pour le lendemain, elle n'aurait certainement pas manqué d'en acheter une neuve. Elle tombait dans l'erreur commune à presque toutes les femmes, erreur dont il faudrait qu'elles fussent toutes averties, plutôt par une personne de l'autre sexe que d'une autre, par un frère plutôt que par une grand-tante. Un homme, en effet, doit être cru lorsqu'il assure que les hommes font peu d'attention à une robe neuve. Qu'il serait désolant pour bien des femmes d'apprendre d'une manière sûre le peu d'effet qu'une parure riche et nouvelle fait sur le cœur des hommes et quel effet la différence d'une robe de soie, de mousseline ou de jacenard produit sur leurs sentiments. La parure d'une femme n'est que pour sa satisfaction propre. Elle peut en être plus brillante, mais non plus belle, plus admirée, mais non plus aimée. Une parure propre et soignée suffit pour plaire aux hommes. Une simplicité de bon goût est presque toujours ce qu'il y a de plus favorable à la beauté. Mais aucune de ces importantes réflexions ne vint à la pensée de Catherine. Le jeudi soir, elle arriva au bal, bien différente de celle qu'elle y avait apportée le mardi précédent. Alors, elle était sous le poids d'un engagement avec M. Thorpe, et aujourd'hui, elle mettait tous ses soins à éviter sa rencontre et une nouvelle invitation de sa part. Quoiqu'elle ne pensât pas, quoiqu'elle n'osât pas même penser que M. Tilney voulût l'inviter une troisième fois à danser, elle le désirait cependant, elle l'espérait, et elle tâchait d'arranger les choses de manière à rester libre. Toutes les jeunes personnes peuvent comprendre les agitations de notre héroïne dans ce moment. Il n'en est guère qui ne les ait éprouvées quelquefois. N'ont-elles pas toutes eu à craindre, ou cru avoir à craindre, les poursuites de celui qu'elles voulaient éviter, et à éprouver l'inquiétude de ne pas fixer l'attention de celui auquel elles désiraient plaire? À l'approche des Thorpe, Catherine éprouva les angoisses de l'agonie. Elle cherchait de tout son pouvoir à se dérober à la vue de John. Se tournait-il de son côté? Elle était saisie d'un frisson mortel. Les quadrilles se formaient et les Tilney ne paraissaient nulle part. « Ne me condamnez pas, ma chère Catherine, lui dit tout bas Isabelle, je ne puis me dispenser de danser encore avec votre frère. Je sais tout ce que cela peut avoir de choquant, je ne cesse de le lui répéter et de lui en faire honte à lui-même, il insiste toujours. Il faut que vous me rassuriez par votre exemple. Venez avec nous, ma chère amie, vous danserez avec John. Il nous a quittés, mais il va revenir dans le moment. » Et sans attendre de réponse, elle disparut avec James. John Thorpe était assez éloigné, mais Catherine le voyait encore, et n'en désirait que plus vivement qu'il disparût aussi. C'est ce qu'il fit à la fin. Dès le moment où elle n'eut plus à l'observer ni à le craindre, elle resta les yeux absolument fixés sur son éventail, se livrant à des pensées qu'elle taxait elle-même de folie. Car, en supposant que M. Tilney fût dans cette foule, il pouvait se passer beaucoup de temps avant qu'il l'aperçût. Il pouvait aussi avoir engagé une autre partenaire. Ses idées l'absorbaient tout entière. Ce fut M. Tilney lui-même qui la tira de cet état en lui adressant une respectueuse invitation. On concevra sans peine avec quel délicieux battement de cœur cette invitation fut acceptée. La joie la plus franche était peinte dans ses yeux. Elle se leva avec empressement et le suivit avec un trouble qui lui était impossible de cacher. Échapper à l'ennui presque inévitable de danser avec John, être invitée par M. Tilney aussitôt qu'elle en avait été aperçue, comme s'il avait eu lui-même le désir de la chercher, avoir été libre de l'accepter, c'est ce qu'elle avait regardé comme presque impossible et ce qui l'élevait au plus haut degré de la félicité. À peine était-il parvenu à s'assurer une place, que l'attention de Catherine fut attirée par la présence de John, qui s'arrêta devant elle. « Comment, Miss Morland, dit-il, comment, vous ici, je croyais que nous devions danser ensemble. » « Je m'étonne que vous ayez eu cette pensée, puisque vous ne m'avez pas invité. » « Fort bien, de par Dieu, je vous ai engagé tout en entrant dans la salle et je suis revenue pour vous rappeler cet engagement au moment où vous veniez de quitter votre place. C'est un tour perfide que vous me jouez. Je ne viens ici que pour l'amour de vous, que pour vous faire danser, et vous vous étiez engagé avec moi depuis mardi dernier. Oui, oui, je me souviens de la demande que je vous ai faite quand vous étiez dans l'antichambre et que vous mettiez votre manteau. J'ai dit à tous mes amis que cette nuit je danserai avec la plus jolie personne du bal. Quand ils vous verront danser avec un autre, c'est alors que je vais être l'objet de leur raillerie. Eh non, ils ne pourront jamais me reconnaître au portrait que vous dites leur avoir fait de moi. S'ils ne vous reconnaissaient pas, ils mériteraient tous d'être jetés à la porte comme des imbéciles. Quel est donc votre partenaire actuel ?
Monsieur Tilney.
Tilney ? Répéta-t-il. Je ne connais pas ce nom-là. C'est une bonne figure d'homme. Vous êtes bien ensemble. Sait-il manier un cheval ? J'ai ici un de mes amis, Samuel Fletcher, qui en a un à vendre. Tout le monde court après. C'est un fameux cheval pour la course. Il ne le fait que 40 guinées. En demanda-t-il 50 que je les donnerai, car ma manie est d'acheter un bon cheval quand je le trouve. Mais Fletcher hésite, il ne veut rien conclure. Que ne donnerais-je pas pour un bon cheval de chasse ? J'en ai 3 maintenant. Jamais il n'y en eut de meilleur. Je n'en donnerai pas un pour 800 guinées. Nous avons résolu, Fletcher et moi, de louer une maison en Leicestershire pour la saison prochaine, car il est diablement désagréable de vivre à l'auberge. » Ce propos fut le dernier auquel Catherine fut obligée de prêter attention. Une longue suite de dames qui passèrent entre elle et John les sépara. M. Tilney, s'approchant alors, lui dit « Ce gentleman a épuisé ma patience. Je n'aurais pu m'empêcher de la lui témoigner s'il fût resté une minute de plus avec vous. C'est un affront réel qu'il m'a fait en me privant ainsi de ma partenaire. Nous avons pour cette soirée une espèce de contrat dans le but de nous faire jouir mutuellement de la société l'un de l'autre. Ce qu'elle peut nous offrir d'agréable nous appartient exclusivement, de manière que personne ne peut s'emparer de l'attention de l'un sans blesser les droits de l'autre. Je comparerai volontiers l'engagement pour la danse à celui du mariage. Fidélité et complaisance, voilà ce qui constitue les devoirs principaux et réciproques de ces deux espèces d'engagement. Ceux qui n'en forment point n'ont pas plus de droits sur une partenaire que sur la femme d'un autre. Cependant, ces deux liens sont bien différents. Croyez-vous qu'ils ne puissent être comparés ?
Il me le semble.
Deux personnes qui se marient ne peuvent plus se séparer. Elles doivent pour toujours demeurer et vivre ensemble. Tandis que celles qui s'unissent pour danser n'ont guère qu'une demi-heure à se trouver à côté l'une de l'autre dans une grande salle. Voilà la manière dont vous considérez le mariage et la danse. Sous ce rapport, je conviens qu'effectivement leur ressemblance n'est pas frappante. Mais il est un autre point de vue sous lequel on peut les envisager. Vous ne vous refuserez sans doute pas à avouer que dans les deux cas, l'homme a le privilège de choisir et la femme celui de refuser. Qu'il y a de chaque côté, entre un homme et une femme, un engagement formé pour l'avantage de chacun, que, dès qu'il est contracté, l'un appartient exclusivement à l'autre jusqu'au moment de la dissolution, qu'il est du devoir de l'un de ne donner à l'autre aucun sujet de regretter de n'avoir pas fait un autre choix, qu'il est de l'intérêt de chacun de ne pas chercher à trouver plus de perfection dans tout autre que dans son partenaire et de ne pas s'arrêter à la pensée qu'il eût été plus heureux s'il eût fait un autre choix. Ne convenez-vous pas de cela ?
Sans doute ce que vous dites est vrai. Malgré cela, j'ai de la peine à croire que ce ne soient pas deux choses assez différentes pour ne pouvoir être vues sous un même rapport ni être comparées ensemble.
Votre opinion tient à la différence que vous établissez entre ces deux choses. Dans le mariage, vous ne voyez l'homme que comme le soutien de la femme et vous croyez que l'obligation de celle-ci ne consiste qu'à s'appliquer à rendre sa maison agréable à son mari. Celui-ci, donc, doit être tout entier à l'utile et celle-là est faite pour l'agréable. Dans le bal, au contraire, les choses suivent un ordre inverse.
Les soins, les attentions, les complaisances sont le partage de l'homme, et la femme n'a à s'occuper que de son éventail, de son flacon. Telles sont les différences qui vous frappent et qui vous font regarder toute comparaison comme impossible.
Je vous assure que ces idées ne me sont jamais venues dans l'esprit.
Allons, je vois bien que vous n'êtes pas de mon avis. Cependant, permettez-moi une observation. Votre manière de voir ne laisse pas d'être inquiétante pour moi. Vous ne voulez admettre aucune obligation dans les devoirs de partenaire. Vous ne les regardez pas comme aussi sérieux que le vôtre peut le désirer. Dès lors, je dois craindre que, si le cavalier qui vient de vous quitter, ou quelque autre même, revenait, vous ne croyez pouvoir, sans blesser mes droits, causer avec ces messieurs pendant tout le temps que vous avez bien voulu m'accorder à moi seul.
Monsieur Thorpe est un ami particulier de mon frère. Il vient me parler, je ne puis refuser de lui répondre, mais, excepté lui et mon frère, je ne connais dans cette salle aucun cavalier qui puisse venir causer avec moi.
Ah, si je ne dois avoir que ce motif de sécurité! Hélas, hélas!
Mais pouvez-vous en avoir de meilleur? Je ne connais personne, je n'ai envie de causer avec personne.
Ce dernier motif me rassure, je vais reprendre courage.
Trouvez-vous toujours Basse aussi agréable que vous le trouviez lorsque j'ai eu l'honneur de vous voir pour la première fois?
Encore davantage.
Vous n'y pensez donc pas? Ne savez-vous pas qu'au bout d'un certain temps, on doit en être fatigué et qu'à la fin de ces 6 semaines, on ne peut plus y tenir?
Je crois que quand j'y resterai 6 mois, je ne m'y ennuierai pas.
Vous entendrez cependant répéter par tout le monde que Basse, comparé à Londres, ne peut paraître longtemps agréable.
Chacun vous dira, pendant 6 semaines, je trouve Basse charmant, mais après ce temps, c'est le lieu le plus monotone qu'on puisse voir.
Tel est le langage ordinaire de toutes les personnes qui viennent régulièrement chaque année pour y passer 6 semaines, qui y restent 1 an et en partant sont toutes étonnées d'y avoir fait un aussi long séjour.
Je crois cela possible. Chacun juge par comparaison. Ceux qui demeurent à Londres peuvent ne pas aimer Basse, mais moi, je ne trouverai jamais cette ville aussi triste que le petit village que j'habite et qui n'offre aucun agrément, tandis qu'ici, on trouve à passer agréablement la journée par la variété des plaisirs qu'on y rencontre.
Vous n'aimez donc pas la campagne?
Pardonnez-moi, je l'aime, j'y ai toujours vécu, j'y ai toujours été assez heureuse. Mais certes, il n'y a nulle comparaison à faire entre la manière de vivre à Basse et celle de vivre à la campagne, où chaque jour on fait la même chose.
Mais à la campagne, vos occupations sont plus solides, plus utiles.
Les miennes?
Oui, les vôtres, pourquoi pas?
Elles y sont à peu près les mêmes qu'ici.
Cependant, ici, vous n'êtes occupé qu'à vous amuser.
Je m'amuse aussi à Fullerton. Peut-être pas aussi bien qu'ici. Je m'y promène comme je le fais à Basse. La différence qu'il y a, c'est qu'ici je vois un grand concours de monde, tandis qu'à Fullerton, je ne vois que Mistress Allen, avec laquelle je suis souvent seule.
Cette naïveté plut fort à M. Tilney.
Seule avec Mistress Allen, répéta-t-il, cela n'est pas bruyant.
Quand vous retournerez à Fullerton, combien de choses vous aurez à raconter à vos parents? Vous leur direz tout ce que vous aurez vu, tout ce que vous aurez fait.
Oh mon Dieu, oui, je leur conterai tout ce que j'aurai vu avec Mistress Allen et les autres personnes. Quand je retournerai à la maison, il me semble que je ne pourrai parler d'autre chose que de Basse, car je l'aime beaucoup. Si j'avais ici papa, maman et mes sœurs, je crois que je serais trop heureuse. L'arrivée de mon frère aîné m'a fait un bien grand plaisir. Il est venu à Basse en même temps qu'une autre famille avec laquelle il est lié, et avec laquelle j'ai fait connaissance. Je ne conçois pas, en vérité, que l'on puisse dire que l'on est ennuyé ou fatigué de Basse.
Sans doute, avec la candeur des sentiments que vous manifestez, il est impossible de s'ennuyer à Basse. Mais les papas, les mamans, les frères, les amis intimes ne sont pas les objets qui occupent ici exclusivement nos élégantes baigneuses. Les bals, les spectacles, les plaisirs, et surtout les plaisirs nouveaux, ont bien plus d'attrait pour elle. Ici, la danse qui commença vint mettre fin à leur conversation, et ils ne s'occupèrent plus que du plaisir de danser. M. Tilney reconduisit ensuite Catherine à sa place. À peine fut-elle assise qu'elle remarqua, dans le nombre des spectateurs, un gentleman qui la regardait beaucoup et qui ne tarda pas à venir se placer immédiatement derrière son partenaire. C'était un très bel homme, d'une figure imposante. Il avait passé l'âge de la jeunesse, mais il en avait conservé la vigueur. Il parla à voix basse, mais avec familiarité, à M. Tilney, sans cesser d'avoir les regards attentivement fixés sur Catherine. Celle-ci, qui s'en aperçut, se troubla, rougit, tourna la tête de notre côté, s'imaginant qu'elle n'attirait ainsi l'attention que parce qu'on trouvait quelque chose à redire en elle. Ce gentleman s'éloigna, et M. Tilney, s'adressant à Catherine, « Vous êtes curieuse, lui dit-il, de savoir ce que j'ai à vous dire de ce gentleman. Il sait votre nom, il est bien juste que je vous apprenne le sien. C'est le général Tilney, mon père. » Oh ! Ce fut la seule réponse de Catherine, mais quelle parole aurait été plus obligeamment expressive que ce « oh » Alors, à son tour, elle ne cessa de tenir ses yeux où se peignait l'admiration, attachée sur le général. Elle suivit tous ses mouvements jusqu'à ce qu'il se fût perdu dans la foule. « Quelle belle famille !» pensa Catherine. Et elle avait la plus grande peine à contenir cette exclamation, prête à lui échapper à chaque instant. En causant avec M. Tilney vers la fin de la soirée, une nouvelle source de félicité s'ouvrit pour elle. Depuis qu'elle était à Bath, elle n'avait encore fait aucune promenade dans les environs de cette ville. Miss Tilney, qui les connaissait tous, lui en parla de manière à exciter sa curiosité. Mais comment la satisfaire, n'ayant personne qui voulût les parcourir avec elle? C'est la réflexion qu'elle fit. Aussitôt, Monsieur et Miss Tilney s'offrirent pour faire avec elle quelques-unes de ses promenades le matin, quand elle le désirerait. « Dès demain !» s'écria-t-elle, transportée de plaisir. « Rien au monde ne me sera plus agréable !» La proposition fut acceptée très obligeamment par Miss Tilney, sous la seule condition qu'il ne pleuvrait pas. Catherine assura qu'il ferait très beau, et il fut convenu qu'on irait la prendre à midi dans Pulteney Street. « Souvenez-vous, demain à midi !» fut la recommandation que se firent les nouvelles amies en se séparant. L'ancienne amie de Catherine, celle qui, depuis 15 jours, lui parlait tant de sa tendresse, la démonstrative Isabelle, ne se présenta pas à elle de toute la soirée. Elle aurait cependant bien voulu la voir pour lui faire le récit de tout ce qui causait sa joie. Mais il fallut céder au désir que Mistress Allen lui témoigna de se retirer. Ses esprits étaient tellement agités que ni le repos que l'on trouve chez soi, ni la tranquillité de la nuit ne purent les calmer.